Ainsi était entrée en Italie une flamme, une peste, qui non seulement changeant les États, mais aussi les façons de gouverner et les façons de faire la guerre. Extrait d'un ouvrage de Francesco Guicciardini, écrit en 1508 à propos de l'expédition de Charles VIII en Italie.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le 2 septembre 1494, le roi de France Charles VIII entre en Italie avec un peu plus de 18 000 hommes et 70 canons. Pourquoi Charles VIII prend-il la décision d'entamer une ambitieuse politique italienne ? Le souverain français avance deux raisons pour intervenir. Tout d'abord, son expédition se veut être une première étape vers une expédition plus lointaine visant à délivrer Jérusalem des Turcs, la péninsule devant servir de base arrière aux opérations de la croisade. À vrai dire, peu de personnes croient à cet argument. Ensuite, le roi souhaite affirmer ses prétentions sur le royaume de Naples en vertu de droits transmis en 1483 par Charles du Maine, neveu de René d'Anjou et descendant de la dynastie d'origine française, qui a régné à Naples jusqu'en 1442, moment où le royaume est tombé sous la souveraineté aragonaise. D'autre part, le contexte italien est marqué par des divisions. Jusque-là, les États italiens avaient cohabité depuis la paix de Lodi en 1454. Un équilibre politique existait entre Venise d'une part, le royaume de Naples, le duché de Milan, la République de Florence d'autre part. Mais cette alliance est affaiblie par la mort de Laurent le Magnifique en 1492, à qui succède son fils Pierre. Donc, les États italiens sont divisés et la péninsule apparaît finalement pour le roi de France comme une proie relativement facile, dans la mesure où ces divisions ne vont pas entraîner une coalition anti-française. Et puis l'Italie attire parce qu'elle est un centre économique extrêmement important et un prestigieux centre culturel. Contre toutes les traditions militaires, Charles VIII entame sa campagne en automne. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette campagne parce que les débuts sont finalement plutôt prometteurs. Il avait réussi à entrer à Florence le 17 novembre 1494, à Rome le 31 décembre et enfin finalement le 22 février 1496 à Naples. Le problème, c'est que cette expédition avait quand même provoqué des craintes, dans la mesure où les succès français ont eu des conséquences sur les équilibres politiques au sein des États italiens. Ceci est particulièrement net à Florence, puisque l'arrivée des Français va provoquer la chute des Médicis et l'arrivée du moine dominicain Savonarole. D'autre part, il y a indéniablement de la part de la papauté un désir d'essayer d'endiguer les influences françaises qui peuvent arriver par le biais de la campagne. Les succès de Charles VIII inquiètent les États italiens et également la République de Venise. Le 31 mars 1495 est conclue une alliance anti-française qui regroupe le pape Alexandre VI, la Sérénissime République de Venise, le duc Gian Galeazzo Sforza de Milan et le roi Ferdinand d'Espagne. C'est face à cette coalition que doit faire face Charles VIII. Aussi préfère-t-il quitter Naples le 20 mai 1495 afin de remonter vers le nord de la péninsule. Il doit se battre d'ailleurs assez farouchement, en particulier à Fornoux le 6 juillet, où les troupes de la Ligue, fortes de 26 000 hommes, essentiellement des Vénitiens, ont essayé de tenter d'arrêter les Français qui réussissent à briser le blocus grâce à une charge au travers du fleuve Taro, mais laissant quand même environ 3 000 morts sur le terrain. Ces expéditions vont se poursuivre tout au long de la première moitié du XVIe siècle. Car la mort de Charles VIII, mort brutale en 1498, n'arrête pas les ambitions françaises. Louis XII va hériter des droits sur le royaume de Naples. Mais il revendique également le duché de Milan, dont il estime être l'héritier légitime par sa grand-mère maternelle, Valentina Visconti. Les politiques de Louis XII ne vont pas aboutir, malgré des débuts prometteurs, à une véritable victoire. Son successeur, François Ier, reprend à partir de 1515 la politique italienne de la couronne de France. Nous connaissons tous la victoire de Marignan, mais le problème, c'est que Marignan ne doit pas faire oublier que cette victoire cache en fait un véritable échec de la monarchie française. Parce que la bataille de Pavie en 1525 va provoquer un désastre, le roi étant fait prisonnier. Donc il y a bien eu un rêve italien des monarques français qui a d'ailleurs été analysé par Niccolo Machiavel, qui a eu l'occasion de réfléchir sur le pouvoir et sur la période qu'il est en train de vivre au travers de deux ouvrages célèbres, Le Prince en 1513, Les discours de sur Tite-Live, écrits entre 1513 et 1519. À ces deux ouvrages, il conviendrait également de signaler son essai « L'art de la guerre », publié en 1520. Dans ses ouvrages, Machiavel reproche aux princes italiens leur inconstance, car, dit-il, ils ne s'en rendaient pas compte, les malheureux, qu'ils se préparaient à être la proie de quiconque les attaquerait. Il n'est guère d'ailleurs amène envers les hommes dont il dresse un portrait pessimiste, ainsi dans le chapitre 15 du Prince. Je cite « On peut dire généralement une chose de tous les hommes, qu'ils sont ingrats, changeants, dissimulés, ennemis du danger, avides de gagner. Tant que tu leur fais du bien, ils sont tout à toi. Ils t'offrent leur sang, leur bien, leur vie, leurs enfants, quand ils n'en ont pas besoin. Mais quand l'affaire presse, ils se révoltent. Et celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu des méchants. » Il est vrai que la campagne en Italie se poursuit, car la libération de François Ier, suite au traité de Madrid, ne va pas faire abandonner toute prétention aux puissances européennes, en particulier à l'Empire et à l'Espagne de Charles Quint et à la France de François Ier et de son fils Henri II. Il y a même, durant ces guerres, un véritable désastre pour Rome quand la ville éternelle est pillée par les troupes de Charles Quint en 1527, dans la mesure où Clément VII, le pape de l'époque, avait eu la mauvaise idée de soutenir la politique de François Ier. Quelles sont les conséquences des guerres d'Italie ? Les décennies des guerres d'Italie ont bouleversé l'histoire de la péninsule. Elles sont à la fois novatrices et inaugurent une nouvelle ère politique. Tout d'abord, les techniques militaires connaissent des évolutions. Si au début des guerres, les piquiers, en particulier les Suisses, parviennent à dominer les champs de bataille, l'artillerie devient une arme fondamentale, tant à Marignan que lors des sièges de villes. Les vieux remparts ne résistent pas à la puissance de feu, et il convient d'innover avec les bastions, les remblais de terre et les fortifications rasantes. L'arquebuse devient également une arme redoutable pour les cavaliers. Le chevalier Bayard est tué d'un coup d'arquebuse en 1524, et l'année suivante, à Pavie, la cavalerie française a été fauchée par les arquebusiers espagnols. Ensuite, autre conséquence, la diplomatie devient une science politique confiée à des spécialistes qui président aux fréquents retournements d'alliances. Ainsi, la République de Venise, neutre en 1494, elle est hostile à la France en 1498, alliée à celle-ci en 1499, mais se retourne contre elle à partir de 1508. Essayez, chères auditrices et auditeurs, de suivre la politique vénitienne. Tout comme le Saint-Siège, qui oscille entre une alliance française ou espagnole tout au long de la période. Les conséquences culturelles sont également très importantes. Léonard de Vinci s'installe en France en 1516, protégé par François Ier, et il va décéder d'ailleurs au Clos Lucé 3 ans plus tard. Les chantiers royaux français du Louvre, de Chambord, de Blois, de Fontainebleau sont marqués par l'influence culturelle italienne qui trouve à s'épanouir au service de la monarchie française. Ainsi, l'architecture de Chambord est marquée par les travaux de Léon Battista Alberti. La grande galerie de Fontainebleau est décorée par Rosso Fiorentino entre 1535 et 1539, alors que le Primatis participe à l'embellissement pictural. La présence de Catherine de Médicis, épouse d'Henri II, fait de la cour de France un vecteur de l'influence italienne. Mais la grande conséquence politique, c'est qu'une Pax Hispanica est instaurée. L'Espagne est désormais implantée dans le royaume de Naples et en Milanais. Elle a un œil sur le grand-duché de Toscane par la possession de forteresses sur l'ancien territoire de la République de Sienne, appelé les Présides. La puissance espagnole est alors un gage de protection envers le danger turc qui se fait pressant sur la péninsule. Nous sommes bien entrés à partir du milieu du XVIe siècle avec un temps de l'Espagne en Italie.